Hello everybody, this is part 2 of 100 Fables for my grandfather. Contre ceux qui ont le goût difficile.
Quand j'aurais en naissant reçu de Calliope les dons qu'à ses amants cette muse a promis, je les consacrerais au mensonge d'Ésope. Le mensonge et les vers de tout temps sont amis. Mais je ne me crois pas si chéri du Parnasse que de savoir orner toutes ces fictions. On peut donner du lustre à leur invention, on le peut, je les sais. Un plus savant le fasse. Cependant, jusqu'ici d'un langage nouveau, j'ai fait parler le loup et répondre l'agneau. J'ai passé plus avant, les arbres et les plantes sont devenus chez moi créatures parlantes. Qui ne prendrait ceci pour un enchantement ?
Vraiment ? Me diront nos critiques. Vous parlez magnifiquement de 5 ou 6 contes d'enfants.
Censeur, en voulez-vous qui soit plus authentique et d'un style plus haut? En voici.
Les Troyens, après 10 ans de guerre autour de leurs murailles, avaient laissé les Grecs qui, par 1000 moyens, par 1000 assauts passant en bataille, n'avaient pu mettre à bout cette fiacité. Quand cheval de bois par Minerve inventé, d'un rare et nouvel artifice, dans ses énormes flancs reçut le sage Ulysse, le vieil Diomède, Ajax l'impétueux, que ce colosse monstrueux avec leur escadron devait porter dans Troie, livrant leur fureur ce dieu même en proie, stratagème inouï, qui le fabricateur paya la constance et la peine. C'est assez, me dira quelqu'un de nos auteurs.
La période est longue, il faut reprendre haleine. Et puis votre cheval de bois, vos héros et leurs phalanges, ce sont des contes plus étranges qu'un renard qui cajole un corbeau sur sa voix. De plus, il vous sied mal d'écrire en si hostile. Eh bien, baissons d'un ton.
La jalouse Amaryllis, songez à son Alcippe, et croyez de ses soins n'avoir que ses moutons et son chien pour témoins. Tircis, qui l'a perçu, se glisse entre des saules. Il entend la bergère adressant ses paroles aux doux zéphyrs et le priant de les porter à son amant.
« Je vous arrête à cette rime, dira mon censeur à l'instant. Je ne la tiens pas légitime, d'une assez grande vertu. Remettez pour le mieux ces 2 vers à la fonte. »«
Maudit censeur, te tiras-tu ? Ne saurais-je achever mon compte ? C'est un dessein très dangereux que d'entreprendre de te plaire. »«
Les délicats sont malheureux. Rien ne saurait les satisfaire. »
Conseil tenu par les rats.
Un chat nommé Rodilardus faisait de rats telle déconfiture que l'on n'en voyait presque plus tant il y en avait mis dedans la sépulture. Le peu qu'il en restait, n'osant quitter son trou, ne trouvait à manger que le quart de son sou. Et Rodilard passait chez l'agent misérable, non pour un chat, mais pour un diable. Or, un jour, qu'au haut et au loin, le galant alla chercher sa femme, pendant tout le sabbat qu'il fit avec sa dame, le demeurant des rats tint chapitre en un coin, sur la nécessité présente. Dès l'abord, l'ordoyen, personne fort prudente, opina qu'il fallait, et plus tôt que plus tard, attacher un grelot au cou de Rodilard. Qu'ainsi, quand il irait en guerre, de sa marche avertie, il s'enfuirait en terre, qu'il n'y savait que ce moyen. Chacun fut de l'avis de monsieur le doyen. Chose ne leur parut à tous plus salutaire. La difficulté fut d'attacher le grelot. L'un dit
« Je n'y vais point, je ne suis pas si sot. »
L'autre
« Je le saurai. »
Si bien que sans rien faire, on se quitta. J'ai maint chapitre vu, qui pour néant se sont ainsi tenus. Chapitre non de rat, mais chapitre de moine, voire chapitre de chanoine. Ne faut-il que délibérer, la cour en conseiller foisonne. Est-il besoin d'exécuter ? L'on ne rencontre plus personne.
Le loup, plaidant contre le renard, part devant le singe.
Un loup disait qu'on l'avait volé. un renard, son voisin, d'assez mauvaise vie pour ce prétendu vol par lui, fut appelé. Devant le singe, il fut plaidé, non point par avocat, mais par chaque partie. Thémis n'avait point travaillé, de mémoire de singe a fait plus embrouiller. Le magistrat suait en son lit de justice. Après qu'on eut bien contesté, répliqué, crié, tempêté, le juge, instruit de leur malice, leur dit
« Je vous connais de longtemps, mes amis, et tous deux vous payerez l'amende, car toi, loup, je te plains, quoique ne t'aie rien pris, et toi, renard, après ce que l'on te demande. »
Le juge prétendait qu'à tort et à travers, on ne saurait manquer, condamnant un pervers. Les deux taureaux et une grenouille.
Deux taureaux combattaient à qui posséderait une génisse avec l'Empire.
Une grenouille en soupirait.
« Qu'avez-vous ? » se mit à lui dire quelqu'un du peuple croassant. « Eh, ne voyez-vous pas, dit-elle, que la fin de cette querelle sera l'exil de l'un, que l'autre, le chassant, le fera renoncer aux campagnes fleuries. Il ne règnera plus sur l'herbe des prairies, viendra dans nos marais, régner sur les roseaux. Et, nous foulant aux pieds jusqu'au fond des eaux, tantôt l'une et puis l'autre, il faudra qu'on pâtisse du combat qu'a causé Madame la génisse. »
Cette crainte était de bon sens. L'un des taureaux, en leur demeure, s'alla cacher à leur dépense. Il en écrasait 20 par heure. Hélas, on voit que de tout temps, les petits ont pâti des sottises des grands.
La chauve-souris et les deux belettes. Une chauve-souris donna la tête baissée dans un nid de belettes. Et sitôt qu'elle y fut, l'autre, envers les souris de longtemps courroucées, pour la dévorer, accourut.
« Quoi ? Vous osez ? » dit-elle. « À mes yeux vous produire après que votre race a tâché de me nuire. N'êtes-vous pas souris ? Parlez, sa fiction. Oui, vous l'êtes, ou bien je ne suis pas belette. »
Pardonnez-moi,
dit la pauvrette.
Ce n'est pas ma profession. Moi, souris, des méchants vous ont dit des ces nouvelles. Grâce à l'auteur de l'univers, je suis oiseau, voyez mes ailes. Vive la gens qui font les airs.
Sans raison plus, et semble la bonne.
Elle fait si bien qu'on lui donne liberté de se retirer. Deux jours après, notre étourdi aveuglément va se fourrer chez une autre belette, aux oiseaux ennemis. La voilà Derechef en danger de sa vie. La dame du logis, avec son long museau, s'en allait la croquer en qualité d'oiseau. Mais elle protesta qu'on lui faisait outrage.
« Moi, pour tel passé, vous n'y regardez point. Qui fait l'oiseau, c'est le plumage. Je suis souris, vive les rats !» Jupiter confonde le chat.
Par cette adroite répartie, elle sauva deux fois sa vie. Plusieurs se sont trouvés, qui, d'écharpe changeant, au danger ainsi qu'elle, ont souvent fait la figue. Le sage dit, selon les gens, vive le roi, vive la ligue.
L'oiseau blessé d'une flèche, mortellement atteint d'une flèche empennée, un oiseau déplorait sa triste destinée et disait, en souffrant un surcroît de douleur, « Faut-il contribuer à son propre malheur ? Cruel humain, vous tirez de nos ailes de quoi faire voler ces machines mortelles. Mais ne vous moquez point, en gens se sans pitié. Souvent il vous arrive un sort comme le nôtre. Des enfants de Japé, toujours une moitié, fournira des armes à l'autre. »
La lisse et sa compagne. Une lisse étant sur son terme, et ne sachant où mettre un fardeau si pressant, fit si bien qu'à la fin de sa compagne consent de lui prêter sa hutte, où la lisse s'enferme. Au bout de quelque temps, sa compagne revient. La lisse lui demande encore une quinzaine. Ses petits ne marchaient, disent-elle, qu'à peine. Pour faire court, elle l'obtient. Ce second terme échu, l'autre lui redemande sa maison, sa chambre, son lit. La lisse, cette fois, montre les dents et dit « Je suis prête à sortir avec toute ma bande si vous pouvez nous mettre hors. Ses enfants étaient déjà forts. Ce qu'on donne aux méchants, toujours on le regrette, pour tirer d'eux ce qu'on leur prête. Il faut que l'on en vienne au coup. Il faut plaider, il faut combattre. Laissez-les un pied chez vous. Ils en auront bientôt près quatre.
L'aigle et l'escarbot. L'aigle donnait la chasse à Maître Jean Lapin, qui, droit à son terrier, s'enfuyait au plus vite. Le trou de l'escarbot se rencontre en chemin. Je laisse à penser si ce gîte était sûr. Mais ou mieux, Jean Lapin s'y blottit. L'aigle, fondant sur lui nonobstant cet asile, l'escarbot intercède et dit
« Princesse des oiseaux, il vous est fort facile d'enlever malgré moi ce pauvre malheureux. Mais ne faites pas cet affront, je vous prie. Et puisque Jean Lapin vous demande la vie, donnez-la lui de grâce ou l'ôtez à tous deux. C'est mon voisin, c'est mon compère. »
L'oiseau de Jupiter, sans répondre un seul mot, choque de l'aile l'escarbot, l'étourdit, l'oblige à se taire, enlève Jean Lapin. L'escarbot indigné vole au nid de l'oiseau, fracasse en son absence ses œufs, ses tendres œufs, sa plus douce espérance. Pas un seul ne fut épargné. L'aigle étant de retour et voyant ce ménage, remplit le ciel de cris et, pour comble de rage, ne sait sur qui venger le tort qu'elle a souffert. Elle gémit en vain, sa plainte au vent se perd. Il fallut pour 7 ans vivre en mer affligée. L'an suivant, elle mit son nid en lieu plus haut. L'escarbot prend son temps, fait faire aux œufs le saut. La mort de Jean Lapin, Derechef est vengé. Ce second deuil fut tel que l'égo de ces bois n'en dormit de plus de 6 mois. L'oiseau qui porte Ganymède, du monarque des dieux, enfin implore l'aide, dépose en son giron ses œufs et croit qu'en paix ils seront dans ce lieu, que pour ses intérêts Jupiter se verra contraint de les défendre. Hardi qu'il désirait la prendre. Aussi ne les y prit-on pas. Leur ennemi changea de note. Sur la robe du dieu fit tomber une crotte. Le dieu, la secouant, jeta les œufs au bas. Quand l'aigle sut l'inadvertance, elle menaça Jupiter d'abandonner sa cour, d'aller vivre au désert, de quitter toute dépendance avec mainte autre extravagance. Le pauvre Jupiter se tut. Devant son tribunal, l'escarbot comparut, fit sa plainte et conta l'affaire. On fit entendre à l'aigle, enfin, qu'elle avait tort. Mais les deux ennemis, ne voulant point d'accord, le monarque des dieux s'avisa pour bien faire de transporter le temps où l'aigle fait l'amour en une autre saison, quand la race escarbote est en quartier d'hiver et comme la marmotte se cache et ne voit point le jour.
Le lion et le moucheron.
Va-t'en, chétif insecte, excrément de la terre.
C'est en ces mots que le lion parlait un jour au moucheron. L'autre lui déclara la guerre. Penses-tu, lui dit-il, que ton titre de roi me fasse peur, ni me soucie? Un bœuf est plus puissant que toi, je le mène à ma fantaisie. À peine il achevait ces mots, que lui-même il sonna la charge, fut la trompette et le héros, dont l'abord il se met au large. Puis prend son temps, fond sur le cou du lion qui le rend presque fou. Le quadrupède écume et son œil étincelle, il rugit, on se cache, on tremble à l'environ. Et cette alarme universelle est l'ouvrage d'un moucheron, un avortant de mouches en ces lieux le harcèle. Tantôt pique les chines et tantôt le museau, tantôt entre au fond du naseau. La rage, alors, se trouve à son fait monter. L'invisible ennemi triomphe et rit de voir qu'il n'est griffe ni dent en la bête irritée, qui de le mettre en sang lui fasse son devoir. Le malheureux lion se déchire lui-même, fait résonner sa queue à l'entour de ses flancs. Balère qui n'en peut mais, et sa fureur extrême le fatigue. Là-bas, le voilà sur les dents,
L'insecte du combat se retire avec gloire. Comme il sonne à la charge, il sonne la victoire. Va partout l'annoncer et rencontre en chemin l'embuscade d'une araignée. Il y rencontre aussi sa fin. Quelle chose par là nous peut être enseignée? J'en vois deux, dans l'une et, contre nos ennemis, les plus à craindre sont souvent les plus petits. L'autre, qu'au grand péril, tel a pu se soustraire, qui périt pour la moindre affaire. L'âne chargé d'éponge et l'âne chargé de sel. Un ânier, son sceptre à la main, menait en empereur romain deux coursiers à longue oreille. L'un, d'éponge chargée, marchait comme un courrier. Et l'autre, se faisant prier, portait, comme on dit, les bouteilles. Sa charge était de sel. Le gaillard pèlerin, par mont, par veau et par chemin, au guet d'une rivière, alpha arrivèrent. Et fort empêchés se trouvèrent. L'ânier, qui tous les jours traversait ce guet-là, sur l'âne à l'éponge monta, chassant devant lui l'autre bête, qui voulant en faire à sa tête, dans un trou se précipita, revint sur l'eau, puis échappa. Car au bout de quelques nagées, tout son sel se fondit si bien que le baudet ne sentit rien sur ses épaules soulagées. Camarade épongier, prêt exemple sur lui. Comme un mouton qui va dessus la foi à l'autrui, voilà mon âne à l'eau, jusqu'au col il se plonge. Pff. Lui, le conducteur et l'éponge, tous trois burent d'autant. L'ânier et le grison firent à l'éponge raison. Celle-ci devint si pesante et de tant d'eau s'emplit d'abord que l'âne, succombant, ne put gagner le bord. L'ânier l'embrassait dans l'attente d'une prompte et certaine mort. Quelqu'un vint au secours. Qui ce fut, il n'importe. C'est assez qu'on ait vu par là qu'il ne faut point agir chacun de même sorte. J'en voulais venir à ce point. Le lion et le rat. Il faut autant qu'on peut obliger tout le monde, on a souvent besoin d'un plus petit que soi. De cette vérité, deux fables feront foi, tant la chose en preuve abonde. Entre les pattes d'un lion, un rat sortit de terre, assez à l'étourdi. Le roi des animaux, en cette occasion, montra ce qu'il était et lui donna la vie. Ce bienfait ne fut pas perdu. Quelqu'un aurait-il jamais cru qu'un lion d'un rat eût affaire? Cependant, il advint qu'au sortir des forêts, ce lion fut pris dans des raies, dont ses rugissements ne le purent défaire. Sira accourut, et fit tant par ses dents qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. La colombe et la fourmi. L'autre exemple est tiré d'animaux plus petits. Le long d'un clair ruisseau, buvait une colombe, quand sur l'eau se penchant, une fourmi tombe. Plop ! Et dans cet océan, dont on eut vu la fourmi, s'efforçait mais en vain de regagner la rive. La colombe, aussitôt, usait de charité. Un brin d'herbe dans l'eau, par elle étant jeté, se fit un promontoire où la fourmi arrive. Elle se sauve, et là-dessus passe un certain croquant qui marchait les pieds nus. Ce croquant, par hasard, avait une arbalète. Dès qu'il voit l'oiseau de Vénus, il le croit en son pot et déjà lui fait fête. Tandis qu'à le tuer, mon villageois s'apprête, la fourmi le pique au talon. Le vilain retourne la tête. La colombe l'entend, part et tire de long. Le souper du croquant, avec elle, s'envole. Point de pigeon pour une obole. L'astrologue qui se laisse tomber dans un puits. Un astrologue un jour se laisse asseoir au fond d'un puits. On lui dit:
pauvre bête, tandis qu'à peine à tes pieds, tu peux voir, penses-tu lire au-dessus de ta tête?
Cette aventure, en soi, sans aller plus avant, peut servir de leçon à la plupart des hommes. Parmi ceux que les gens sur terre nous sommes, il en est peu qui, fort souvent, ne se plaisent d'entendre dire qu'au livre du destin les mortels peuvent lire. Ce livre, qu'Homère et les siens enchantés. Qu'est-ce que le hasard parmi l'Antiquité et parmi nous la Providence? Or, du hasard, il n'est point de science. Si l'on était, on aurait tort de l'appeler hasard, ni fortune, ni sort, toute chose très incertaine. Quant aux volontés souveraines, de celui qui fait tout, et rien qu'avec dessein, qui les sait, qui lui seul, comment lire en son sein?
Aurait-il imprimé sur le front des étoiles ce que la nuit des temps enferme dans ses voiles? À quelle utilité pour exercer l'esprit de ceux qui de la sphère et du globe ont écrit?
Pour nous faire éviter des maux inévitables,
nous rendre dans les biens de plaisir incapable et, causant du dégoût pour ses biens prévenus, les convertir en maux devant qu'ils soient venus. C'est erreur, ou plutôt c'est crime de le croire.
Le firmament se meurt, les astres font leur cours, le soleil nous fuit tous les jours. Tous les jours sa clarté succède à l'ombre noire, sans que nous en puissions autre chose inférer que la nécessité de luire et d'éclairer, d'amener les saisons, de mûrir les semences, de verser sur le corps de certaines influences.
Du reste, en quoi répond au sort toujours divers ce train toujours égal dont marche l'univers? Charlatan, faiseur d'horoscope, quittez les cours des princes de l'Europe. Emmenez avec vous les souffleurs tout d'un temps. Vous ne méritez pas plus de foi que ces gens. Je m'apporte un peu trop, revenons à l'histoire, de ce spéculateur qui fut contraint de boire.
Outre la vanité de son art mensonger, c'est l'image de ceux qui baillent aux chimères, cependant qui sont en danger, soit pour eux, soit pour leurs affaires.
Le lièvre et les grenouilles. Un lièvre en son gîte songeait, car que faire en un gîte, à moins que l'on ne songe. Dans un profond ennui, ce lièvre se plongeait. Cet animal est triste et la crainte le ronge.
Les gens de naturel peureux sont,
disait-il,
bien malheureux. Ils ne sauraient manger morceaux qui leur profitent. Jamais un plaisir pur, toujours à sauts divers. Voilà comme je vis, cette crainte maudite m'empêche de dormir, sinon les yeux ouverts.
Corrigez-vous,
dira quelque sage cervelle.
Et la peur se corrige-t-elle? Je crois même qu'en bonne foi les hommes ont peur comme moi.
Ainsi raisonnait notre lièvre, et cependant faisait le guet. Il était douteux, inquiet. Un souffle, une ombre, un rien, tout lui donnait la fièvre.